Bonjour, 23h à Melilla et minuit à Mogadiscio. Bienvenue dans Salle Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Salle Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrons l'émission avec ces vagues successives de plusieurs centaines d'immigrés qui tentent de passer dans l'enclave espagnole de Melilla. Nous serons au Nigeria pour notre dossier.
C'est mal de voler. Ces gars perforent les oléoducs, volent le pétrole et le raffinent sur place. Ils ne sont pas du tout préoccupés par les effets néfastes sur l'environnement. Pas du tout. Ils causent des dommages incalculables à l'environnement. Ils volent les ressources de l'État.
Le Nigeria, où les autorités nigérianes ont détruit ces derniers mois des centaines de raffineries de pétrole illégales dans la région du delta du Niger. Nous entendrons ensuite l'appel des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest pour faire face à l'épidémie du virus Ebola qui menace toute la sous-région. Enfin, interview exclusive de La Voix de l'Amérique avec Mahamat Saleh Anadif, le chef de la mission de l'Union africaine en Somalie. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Jacques Aristide au micro, bonsoir. La Cour pénale internationale a reporté le procès d'Uhuru Kenyatta au 7 octobre. Cela pour accorder du temps supplémentaire à la collecte de documents sur les accusations de crimes visant le président kényan et son vice-président William Ruto. Les procureurs de la CPI affirment que certains témoins ont été soudoyés ou menacés afin qu'ils reviennent sur leurs déclarations. Le chef de l'État kényan est accusé d'avoir orchestré une vague de violence meurtrière qui avait balayé le Kenya après l'élection de 2007, faisant plus d'un millier de morts. Mais le dossier de l'accusation s'est beaucoup allégé avec la perte de plusieurs témoins clés. En République centrafricaine, mise au point aujourd'hui de la MISCA sur les événements meurtriers de samedi au quartier PK12 et dans certains quartiers du nord de Bangui, le général Martin Toumenta Tchomou, commandant de la force africaine, a assuré au cours d'un point de presse que les éléments tchadiens de la MISCA n'ont fait que riposter à une attaque des anti-balaka au PK12 et à Gobongo. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU se dit préoccupé par la recrudescence de la violence en République centrafricaine. Dans une déclaration remise aujourd'hui à la presse, Ban Ki-moon a souligné l'importance de dresser rapidement une liste d'individus qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays, telle que l'exige le Conseil de sécurité. Ces gens, dit-il, auront à répondre de leurs actes. Une tentative d'évasion dans une prison du Nigeria a entraîné la mort d'au moins 21 personnes tenues soupçonnées d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram. Ont attaqué les gardes de service au quartier général de la police secrète hier soir à Abuja. Il s'en est suivi un échange de tirs qui a duré une heure. La Guinée continue de faire face à une épidémie sans précédent de fièvre Ebola selon l'ONG Médecins Sans Frontières. Il y a 122 cas confirmés, dont 11 à Conakry et 78 décès enregistrés à travers le pays. Les autorités sont engagées dans une course contre la montre pour empêcher la propagation de l'épidémie. Sur les mesures prises à Conakry, écoutons le docteur Sakoba Keïta, directeur du service national de la prévention.
À Conakry, on a mis déjà en place différentes commissions qui sont chargées de superviser la prise en charge des cas et recenser tous les contacts à Conakry des 11 malades et mettre un mécanisme de suivi durant les 21 jours. Ils seront gardés à résidence. Nous allons empêcher toute visite par qui que ce soit dans leur salle d'isolement. Et chaque soir, on a des points de presse sur les mesures de prévention pour que les gens comprennent que cette maladie se contracte par le contact soit avec le malade ou le cadavre ou des objets. Et donc ces messages-là sont transmis. Nous avons appelé tous les services et même les établissements de soins pour qu'on mette un dispositif de lavage des mains, et même dans les sanitations, d'éviter de serrer les mains en cette période critique afin que nous puissions arrêter le plus tôt possible la propagation de l'épidémie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Pakistan, l'ancien président Parvez Musharraf a été inculpé pour haute trahison par un tribunal d'Islamabad. Il a plaidé non coupable. L'ex-chef de l'armée fait face à 5 chefs d'accusation. Une décision historique dans un pays où les militaires ont toujours dominé le pouvoir civil. S'il est trouvé coupable, il risque la peine de mort. Parvez Musharraf a dirigé le Pakistan de 1999 à 2008. Et puis, visite en Crimée du premier ministre russe Dmitry Medvedev. C'est le plus haut responsable de la Russie à se rendre dans la région depuis son annexion le 21 mars dernier.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission avec ces vagues successives d'immigrants qui tentent de plus en plus régulièrement d'entrer dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, situées sur le territoire marocain. Avec le rêve, bien sûr, une fois qu'ils seront en Europe, de pouvoir demander un statut de réfugié politique. Idriss Fall a fait le point avec Jamal Berraoui, un militant des droits de l'homme à Casablanca.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc était un pays de transit, que des subsahariens viennent au Maroc pour essayer justement de traverser vers l'Europe. Que le Maroc, on a vu d'accord qu'il a passé avec l'Union européenne, il surveille ses frontières de plus en plus sérieusement, de plus en plus puissamment. Donc ce sont des gens qui restent là. Il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure le plus répandu, c'est que ce sont des gens qui, en arrivant au Maroc, n'ont plus assez d'argent pour payer les passeurs. Donc quand ils arrivent ici, ils n'ont plus d'argent pour payer les passeurs, ils restent là. Et le Maroc a fini par adopter une législation qui est très favorable à ces gens pour essayer de leur donner des papiers, pour essayer de les aider à s'installer au Maroc. Les chiffres sont très fluctuants, il n'y a pas de chiffres fixes. Mais on sait qu'ils sont au minimum des dizaines de milliers qui sont là au Maroc, que ce soit au nord, que ce soit dans d'autres villes du Maroc, qui sont restés ici, qui sont venus de Sierra Leone, qui sont venus du Sénégal, du Niger, du Nigeria, des trucs, et qui sont coincés au Maroc. Alors vous avez deux phénomènes, vous avez ceux qui arrivent au Maroc qui n'arrivent plus à traverser, mais vous avez aussi tous ceux qui passent par l'Algérie, parce que l'Algérie a comme politique, chaque fois qu'elle a des subsahariens, de les verser vers le Maroc, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle a des subsahariens, au lieu de les ramener chez eux ou de leur trouver une solution en Algérie, elle les verse vers le Maroc.
Ce qui fait vraiment beaucoup de monde donc sur le territoire marocain.
C'est beaucoup de monde, hein. C'est des dizaines de milliers de personnes. Et le Maroc a pris une décision salie pour tout le monde, d'ailleurs. C'est de leur offrir l'hospitalité marocaine, c'est-à-dire de leur donner des papiers pour qu'ils soient des résidents au Maroc et au lieu de chercher à passer en Europe, qu'ils essaient de trouver une vie au Maroc. Et à ma connaissance, il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont pris des papiers au Maroc.
Nous retrouverons demain la suite de cet entretien avec Jamal Berraoui, un militant des droits de l'homme à Casablanca. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 100.9 FM à Sokodé, au Togo, sur la radio Tchaoudjo. Nous sommes au Nigeria pour notre dossier. Le Nigeria où les autorités ont détruit ces derniers mois des centaines de raffineries de pétrole illégales dans la région du delta du Niger. L'opération est critiquée par certains activistes qui appellent à la légalisation de ces raffineries. Mais d'autres estiment que légitimer le vol de pétrole ne fera qu'aggraver les pénuries chroniques de carburant, de même que l'impunité générale au Nigeria. Les explications de Jacques Aristide.
Le delta du Niger, riche en pétrole mais est pauvre et très pollué, ses habitants qui vivent de l'agriculture et de la pêche pointent du doigt les compagnies pétrolières. Certains d'entre eux se sont tournés vers le vol de l'or noir qu'ils prélèvent des oléoducs pour un marché noir lucratif. Le gouvernement nigérian est pris entre deux feux. Édouard Ofomore, avocat et ancien commissaire de police. Nous apprenons chaque jour qui passe que les autorités ont détruit des raffineries, mais ces raffineries repoussent après leur destruction. Pourquoi cela? Je vous laisse tirer votre conclusion. Pour l'homme de loi, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut légaliser, réglementer la vente noire du pétrole. N'est-ce pas là un cercle vicieux? Il ne faut plus se voiler la face. La solution passe par la légalisation, par des permis en bonne et due forme, ce qui permettrait même de renflouer les caisses de l'État. Selon lui, les opérateurs de petites raffineries pourraient ainsi acheter du pétrole brut de l'État. Les critiques de ce plan se demandent pourquoi les contrebandiers feraient l'acquisition légale de pétrole brut, alors même qu'ils peuvent se le procurer gratuitement à partir des oléoducs. D'ailleurs, le gouvernement affirme que les vols de pétrole coûtent jusqu'à 1 milliard de dollars par mois à l'État. Wole Olaoye, un chroniqueur de journal nigérian The Daily Trust.
Stealing is wrong. These guys break.
C'est mal de voler. Ces gars perforent les oléoducs, volent le pétrole et le raffinent sur place. Ils ne sont pas du tout préoccupés par les effets néfastes sur l'environnement. Pas du tout. Ils causent des dommages incalculables à l'environnement. Ils volent les ressources de l'État. Pour ce journaliste, toute tentative pour régulariser le commerce du pétrole sur le marché noir contribuerait à un autre problème épineux au Nigeria, c'est-à-dire l'impunité. De nombreux crimes restent impunis dans le pays, ce qui alimente l'insurrection dans le nord et l'instabilité dans le sud. À Wari, une ville pétrolifère dans le delta du Niger, les habitants affirment que ce sont les compagnies pétrolières qui sont les vrais voleurs. Elles sont accusées de faire main basse sur les ressources en laissant derrière elles des terres et des eaux polluées. Dans un pays premier producteur de pétrole du continent, les voitures manquent souvent de carburant et les pannes d'électricité sont devenues le lot quotidien des Nigérians.
Les raffineries de pétrole illégal au Nigeria, un reportage réalisé par Heather Murdoch, correspondante du service anglais de la Voix de l'Amérique. Le virus Ebola menace à présent une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest. Réunis en sommet à Yamoussoukro, les chefs d'État ouest-africains ont lancé un appel à l'aide de la communauté internationale pour faire face à l'épidémie. D'ailleurs, le 44e sommet de la CEDEAO a pris fin samedi avec la désignation du président John Dramani Mahama à la tête de l'organisation régionale. 14 chefs d'État ont participé à cette session ordinaire. Le point avec Germain Dri, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
Les chefs d'État et de gouvernement réunis en session ordinaire à Yamoussoukro ont planché sur les questions relatives aux performances économiques régionales, à l'accord de partenariat économique APE et à la consolidation de la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. À l'issue de ces échanges, le président ghanéen John Dramani Mahama a été choisi par ses pairs pour diriger la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour 24 mois. Pour le nouveau président, l'intégration régionale est une priorité.
Integration has many elements to it. It has ETLS, it's got the monetary union and several other things.
Nous allons accorder beaucoup de priorité à l'intégration économique et au développement de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'APE, eh bien, tout doit être fait pour nous assurer que les populations de l'Afrique de l'Ouest aient un accord qui nous donne les meilleurs résultats, c'est-à-dire un résultat qui se traduit en termes de meilleure prospérité. L'accroissement des échanges entre nous devrait permettre ainsi d'améliorer aussi notre prospérité économique collective sur la création d'une monnaie unique. Nous allons intensifier nos efforts sur ce plan.
Si tout s'accorde sur le projet d'une monnaie unique en 2020 et de l'autoroute Lagos-Abidjan, en revanche, l'unanimité ne s'est pas faite autour de l'accord de partenariat économique APE. Kadré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO.
Au titre de l'accord de partenariat économique, la conférence valide les conclusions de l'accord dans le principe. Elle note cependant qu'il reste quelques questions techniques à résoudre. À cet effet, la conférence instruit les négociateurs en chef de prendre les mesures nécessaires dans un délai de 2 mois en vue de trouver une solution aux questions soulevées par certains États membres, notamment le Nigeria, avant la signature de l'accord. Les chefs d'État et de gouvernement réitèrent la nécessité d'obtenir une croissance encore plus vigoureuse pour conforter l'emploi et permettre la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La conférence exhorte les États membres à poursuivre les efforts qu'ils déploient en vue de la mise en place du cadre macroéconomique assaini et stable. Le sommet invite les États membres à respecter les critères de convergence macroéconomique et demande au président de la Commission d'en assurer rigoureusement le suivi. Dans l'optique de la consolidation du marché commun, la conférence réitère ses décisions du sommet de Dakar sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Elle salue à cet égard les mesures déjà engagées pour le renforcement de la stratégie industrielle, l'harmonisation des politiques commerciales, la mise en place d'un programme de transition fiscale et la pleine application par tous les États membres du schéma de libéralisation des échanges.
Notons que le président John Dramani Mahama succède au président ivoirien Alassane Ouattara qui a passé 48 mois à la tête de la CEDEAO. Germain Dri, Yamoussoukro, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique et sur le 99 FM à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous terminons l'émission par la Somalie où les forces africaines et somaliennes poursuivent leur offensive contre les militants d'Al-Shabaab. Mahamat Saleh Anadif, le chef de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, se dit satisfait des opérations militaires en cours. La population est, selon lui, désireuse d'être libérée d'Al-Shabaab. Timothée Donangmaï a recueilli son interview exclusive.
Jusqu'à là, les opérations se sont bien passées, mais par principe, quand on fait des opérations militaires, sûrement il y a aussi des pertes. Mais ce qui est quand même à noter, c'est que nous avons trouvé une population vraiment désireuse d'être libérée d'Al-Shabaab, ce qui est un point positif. Mais l'autre point négatif, c'est que nous avons trouvé quand même des villes, des villages détruits. Aucune infrastructure n'existe, donc ça pose vraiment le défi de reconstruire ces villes et villages. Ça pose vraiment le défi qu'il y ait des administrations, qu'il y ait stabilisation de ces villes, parce que autant c'est bien de les libérer, mais autant assurer une stabilisation, les reconstruire demeure quand même un défi.
Est-ce que vous avez un nombre cible de localités à reconquérir? On parle d'une trentaine de localités.
Oui, c'est sûr, parce que on ne peut pas, c'est des opérations militaires, on ne peut pas donner des noms, mais chaque secteur a quand même un certain nombre de cibles, d'objectifs à réaliser pendant cette période où on a prévu les opérations militaires. Plus précisément, on voulait que ça puisse se faire autant que possible avant l'arrivée massive des saisons de pluie.
Et certaines sources disent que les opérations militaires pourraient être gelées pour une période de 3 mois. Qu'en dites-vous?
On ne parle pas pour le moment de gel, mais là où c'est possible, les opérations militaires sont prévues quand même continuer à se poursuivre, mais on tiendra compte des réalités sur le terrain. Mais pour le moment, officiellement, on ne parle pas d'arrêter les opérations.
Vous avez parlé tantôt de la nécessité de stabiliser les villes qui sont reprises à Al-Shabaab. Où en êtes-vous dans les localités déjà conquises?
Il y a 3 choses, en fait, au niveau des localités que nous avons conquises. Il y a vraiment les services minimums qui est urgent et que nous essayons de pouvoir le faire, ça, au niveau de la mission même, à savoir comment refaire les quelques forages qui ont été détruits, produire un peu de quelques médicaments, essayer vraiment de reconstruire, pas seulement bâtir des édifices nouveaux, mais là où il y a une école qui a été démantelée, on essaie de la refaire, là où il y a un hôpital, là où il y a un poste de police, ce qui symbolise l'État. Au niveau de la mission, donc nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les QIC Impact Project, les projets Impact Rapide, pour essayer un peu de soulager les populations. L'autre défi, c'est, regarde le gouvernement, c'est comment faire pour que très rapidement ils viennent en consultation avec les populations, nommer des administrateurs assez représentatifs pour rassurer et vraiment essayer quand même de gouverner ces régions qui ont pendant longtemps été sous la coupe d'Al-Shabaab. Troisième élément, c'est pouvoir les sécuriser au maximum ces régions pour que les humanitaires viennent secourir ces populations parce qu'il y a une situation humanitaire également très difficile.
Le chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, Mahamat Saleh Anadif. Salut plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Audrius Regus. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec notre dernière découverte, le groupe métissé Paris Kinshasa, qui s'inspire des musiques congolaises. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique, ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Banaï. Poto poto mboka monene, solo kishasa poto mui. Poto poto mboka monene, solo kishasa poto mui. Tango na tangi biloko na tangi biloko na ga eko.